une bonne année dans le Seigneur. Nous voilà déjà 2020. Ça passe vite. Hein. Et certainement, on se rappelle quand nous sommes passés de 1999 à 2000. Plein de monde disait, ça va être la fin du monde. Il va y avoir des catastrophes. Et la fin du monde n'est pas arrivée. Sinon, on ne serait pas ici. Et puis, en 2012, beaucoup de personnes disaient aussi, oh, ça va être la fin du monde. 2012. Et nous sommes en 2020. Et toujours pas la fin du monde. Ce matin, pour ce premier message de l'année, je voudrais vraiment qu'on puisse s'arrêter et réfléchir et méditer ensemble quand Jésus dit « Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. » Nous avons effectivement, il n'y a pas si longtemps, fêté Noël, la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et déjà, on parle de son retour. Jésus revient bientôt. Est-ce que c'est notre désir que Jésus revient bientôt? Bien sûr, je comprends tous les jeunes, et parce que je suis passé là aussi. Pas maintenant, Seigneur. Pas maintenant, parce que je dois me marier. Et c'est une belle année pour Anthony et Coralie qui vont se marier. Et certains, peut-être, ont commandé leur voiture. C'est le moment qu'on commande la voiture. Pas maintenant, Seigneur. Il faut que je roule un petit peu avec. Peut-être certains qui ont signé un contrat avec Anderlecht ou avec un autre club. Ah, pas maintenant, Seigneur. Et je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais est-ce que nous avons le désir que le Seigneur Jésus revient bientôt? Celui qu'on adore dimanche après dimanche, celui qu'on sert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Est-ce qu'on a ce désir de voir le Seigneur Jésus-Christ? Beaucoup de chrétiens pensaient que Jésus allait venir à leur époque, déjà à l'époque de l'apôtre Paul. Ainsi, Luther pensait vraiment que Jésus allait revenir à son époque. Peut-être nos parents, nos grands-parents ont parlé du retour du Seigneur Jésus. Et il n'est pas revenu. Peut-être ce matin, le Seigneur attend que j'ai fini le message, mais on voudrait vraiment qu'il revienne. Jésus revient bientôt. Et le bientôt, quand Jésus parle de bientôt, c'est que c'est sûr qu'il va venir. Mais ça veut dire aussi également le bientôt, quand les choses vont se dérouler, ça va aller tellement vite que Jésus revient tout de suite. Ça va accélérer les choses. En un clin d'œil, le Seigneur Jésus sera là. Et je pense toujours à cette image que le Seigneur revient, où je donne un bisou à ma femme avant de partir travailler. Elle me voit là à la pointeuse, et avant de pointer, il revient. Oh, moi, j'ai pas fait cette journée-là. Waouh! Ce serait super. Une journée en moins. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous, en tant que croyants, on entend déjà les pas du Seigneur revenir? Est-ce qu'on entend déjà les pas? C'était la période des vacances, et même le week-end. Mon épouse et moi, on se lève les premiers et on prépare le déjeuner. Et à un moment donné, on entend les pas des enfants, de marcher. Et puis, ils descendent. Est-ce qu'on entend les pas du Seigneur Jésus qui est en train de venir? Spurgeon dit, il est en chemin, Jésus. Il arrive rapidement. Que le bruit de ses pas soit comme une musique dans nos cœurs. Car voici notre maître, il revient. Jésus revient. Et nous voyons dans l'évangile de Matthieu, Jésus, son dernier discours, le cinquième et dernier discours avec ses disciples. Chapitre 24, 25, les plus longs et également les plus difficiles. Certains pensent que ce sont des paroles pour les Juifs, parce que certains pensent que l'Église sera déjà partie, parce que c'est pas mentionné l'Église. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête à ces deux chapitres, 24 et 25. Jésus sort du temple. Et les disciples vont lui dire à Jésus, waouh, en quelque sorte c'est ça, waouh, qu'est beau temple, il est beau le temple. Certainement, on l'a déjà dit quand on est rentré dans une église, dans un temple, waouh, que c'est beau. Bientôt, jumelé, vous allez dire ça aussi. Mon épouse et moi, quand on part en France, en vacances, on aime bien visiter les églises. Et on le dit à chaque fois, que c'est beau, ce temple. Et les disciples disent à Jésus, waouh, il est beau ce temple. Et Jésus va dire, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui sera détruit. Qui ne soit détruit, renversé. Et voilà le grand discours de Jésus. Jésus va prendre le temps, il va s'asseoir sur le mont des Oliviers en hauteur, certainement en face de Jérusalem. Et les disciples vont poser trois questions. La première, mais quand va se dérouler cet événement, la destruction du temple? La deuxième question, mais c'est quand l'événement, ton événement, en quelque sorte, ton retour? Et la troisième et dernière question, c'est quand la fin du monde? Et Jésus va commencer à leur dire, dans le verset 4, et retenons ce verset, pour chacun de nous, pour tous les jours, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Effectivement, ce temple, ce beau temple, des pierres de 12 mètres sur 3, a été détruit. Et Jésus commence à leur dire qu'il y aura des faux messies. Il y aura des guerres. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y aura des persécutions. Il y aura beaucoup de personnes qui seront séduits par les faux prophètes. Là, j'étais vraiment triste d'entendre ça. Ils vont faire des grands signes, des prodiges et des miracles. Et Jésus s'arrête sur la prophétie de Daniel, que les Juifs ont été persécutés, expulsés, et qu'on a adoré dans le temple un faux Dieu. Et on a fait des sacrifices de porc. Et Jésus nous rappelle qu'il y aura encore cela dans Apocalypse au chapitre 13. Et voilà que Jésus arrive au centre de son message. Et au centre de son message, c'est pour dire aux uns aux autres, est-ce que vous êtes prêts quand je vais revenir? Est-ce que vous serez prêts quand je reviens? Alors Jésus va raconter une parabole. Une parabole, c'est vraiment un panneau indicateur. Quand vous prenez la direction de Bruxelles, vous suivez ce panneau Bruxelles. C'est ça que Jésus veut faire montrer aux disciples et à chacun de nous. Par cette parabole de Matthieu au chapitre 25, qu'on va lire ensemble. Au verset 1, et nous lirons bien sûr ces 13 versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous, et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus termine « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. » Une très belle parabole. 10 vierges, qu'on peut dire 10 jeunes filles, ou plutôt 10 demoiselles d'honneur, qui devaient préparer la mariée à la rencontre de l'époux. Ces 10 femmes avaient des lampes. On pense bien sûr que ce sont des torches qui avaient bien sûr le dessus, des tissus, des chiffons qu'ils imbibaient avec de l'huile. Mais il est dit qu'il y avait 5 folles et 5 sages. Et le terme folle veut vraiment dire stupide, parce qu'ils n'avaient pas pris de l'huile. Je sais pas, c'est comme nous. Nous savons, nous prenons notre voiture et nous savons qu'il n'y a pas d'huile dans la voiture. C'est stupide de prendre la voiture. C'est la catastrophe. C'est comme si vous partez à la chasse et vous prenez pas de cartouches. C'est stupide. Vous allez faire des courses sans votre porte-monnaie, sans votre carte Visa, crédit. Mais c'est stupide. Et c'est ça, Jésus est en train de dire. Ils n'ont pas pris de l'huile. Par contre, les sages, eux, ils ont pris de l'huile dans des vases. Et voici que l'époux tardait à venir. Oui, il paraît qu'à cette époque-là, il n'y a que le père de l'époux savait l'heure et le jour. C'est vrai que ça filtrait quand même. Mais c'était que l'époux, le père de l'époux, savait le jour et l'heure. Et voilà qu'il tardit à venir et ces 10 femmes s'endorment. Et au milieu de la nuit, il y eut un cri, la trompette. Et voilà que ces 10 femmes se lèvent pour préparer leurs lampes. Mais les folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Effectivement, il n'y a pas d'huile. Mais les sages dirent, allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et ces folles sont parties. Et arriva l'époux. Et celles qui étaient prêtes, les sages, entrèrent dans la salle de noces, dans le festin. Et la porte se ferme. Plus tard, les cinq folles arrivèrent près de la porte et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et la chose horrible dans ce passage, il répondit en vérité. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire il faut l'écouter. Je vous le dis, je ne vous connais pas. C'est horrible de dire, je ne vous connais pas. Et Jésus termine dans ce verset 13, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Être prêt, mes frères et mes sœurs. Dix vierges, entre guillemets, dix chrétiennes. C'est la première fois qu'on parle premier des femmes et après les hommes. On pourrait dire aussi également dix chrétiens. Ils sont prêts. Pourquoi ils sont prêts? Parce qu'ils ont déjà la tenue, les vêtements. Ils sont prêts. Ils ont déjà les vêtements du retour de l'époux. Le problème, ce n'est pas les vêtements qu'il faut avoir. Et je dirais même pas l'endroit. Il faut l'huile. Et les sages ont bien compris cela. Et l'huile, dans la parole de Dieu, est symbole du Saint-Esprit. Alors, vous et moi, ou moi et vous, est-ce que nous avons été baptisés de l'Esprit-Saint? C'est un terme qu'on dit rarement dans nos églises. Parce qu'on a peur. Mais le baptême de l'Esprit-Saint, ce n'est pas une double expérience. Non. 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans l'Esprit Saint. C'est au moment de notre conversion, au moment de la nouvelle naissance, au moment où on se repent, il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est que Dieu nous pardonne et il met en nous son esprit en nous, sur chacun de nous. Et Dieu scelle l'Esprit Saint en nous. Voilà la grande différence. Les sages avaient l'Esprit Saint. Et les sages disent non aux folles. Parce qu'on ne sait pas donner l'Esprit Saint à quelqu'un. C'est impossible. On peut évangéliser, mais on ne peut pas donner la vie à quelqu'un. On ne peut pas donner la vie éternelle à quelqu'un. Il faut aller vers la personne qui donne cela. Et quand il dit « acheter », ça veut vraiment dire « Jésus a dû payer pour cela ». Jésus a payé sur la croix. Et on vient vers lui. Et lui, il nous offre le pardon et il nous offre l'esprit qui est l'esprit de vie en chacun de nous. Et il faut passer par la repentance. Et Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Comment être prêt à son retour? Est-ce qu'on doit veiller 24 heures sur 24? Mais voilà que je dors plus, et j'attends le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je reste 24 heures sur 24 à l'église. C'est pas ça ce qu'il nous enseigne. Les cinq sages s'endorment. Veillez donc, c'est plutôt, est-ce que moi, je suis passé par la repentance? Est-ce que moi, je suis né de nouveau? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en moi et dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu? Veillez donc. Parce qu'il y aura vraiment, vraiment des moments difficiles. Beaucoup vont se laisser séduire. Beaucoup vont relâcher. Jusqu'à même renier Christ. Parce qu'ils avaient simplement des vêtements religieux, que des vêtements du dimanche. Comme qui, mes frères et sœurs? Mais comme Pierre, il n'avait que les vêtements. Il a fallu plus tard qu'il passe par la repentance. Et nous aussi, si nous avons que les vêtements, on va se laisser séduire. On va relâcher. On va même renier. Veillez donc, parce qu'il y aura beaucoup de personnes, je le vis dans l'usine, et vous le vivez certainement. Beaucoup de gens vous disent, mais pourquoi, si Dieu est là, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi tant de personnes qui meurent? Regarde, combien de personnes n'ont pas à manger. Et là, il faut revenir dans le verset 4 du chapitre 24. Prenez garde que personne ne vous séduise. Veillez donc, soyez attentifs, car beaucoup de personnes vont nous séduire. Et Jésus, dans le chapitre 24, il dira, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est comme dans la parabole. Le Père seul sait le jour et l'heure. Alors, les faux prophètes viennent vers vous, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ils viennent vers vous et ils vous disent, « Mais tu vois, Gino, Jésus n'est pas Dieu. » Parce que s'il était Dieu, il connaît le jour et l'heure. Et là, il faut s'arrêter avec ces faux prophètes et leur dire, « Mais tu sais que Jésus est également homme, qu'il a eu faim, Jésus. » Il a été fatigué, Jésus. Quand il a reçu les douleurs, il a eu mal, Jésus. Que personne ne vous séduise, même les faux prophètes. Les faux prophètes vont faire beaucoup de prodiges et de miracles. Mais le miracle, ce n'est pas une signature de la vérité. Ça reste un miracle. Et Jésus nous enseigne au chapitre 7, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, moi j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus dira, ouvertement, je ne vous connais pas moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Veillez donc, parce que beaucoup de faux prophètes vont essayer de nous séduire. Alors on arrive au verset 34. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Et là, beaucoup de protestants, soi-disant chrétiens, on dit une génération, c'est plus ou moins 40 ans. Et ils se disent, mais ça fait 2000 ans que Jésus a dit ça. Et si ce n'est pas passé, vous voyez bien que c'est faux. Il ne va jamais revenir Jésus, des protestants, soi-disant chrétiens. Une génération. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus, une génération? Mais la génération qui verra le début des choses, les débuts de toutes ces choses qui doivent arriver, mais verra également la fin de toutes ces choses. Cette génération-là verra le début et verra la fin. Veillez donc que personne ne vous séduise, même soi-disant des chrétiens. Ne croyez plus au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà qu'on arrive à la fin du chapitre 24. Que Jésus parle et rappelle. Noé. Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner Jésus quand il rappelle les choses de Noé? Mais tout simplement, quand Noé prenait une planche pour faire l'arche, c'était simple. C'est pas simplement pour clouer la planche, mais il annonçait la repentance aux uns aux autres qui étaient là. À chaque fois, il prenait une deuxième planche, il allait vers les autres. Repentez-vous. Il prenait une troisième planche, il a cloué. Repentez-vous. Ça a duré, vous savez combien de temps? 120 ans. 120 ans. 2 Pierre 2, 5. Noé, le prédicateur de la justice. 120 ans. Repentez-vous. Repentez-vous. Et certainement, c'est pas indiqué ça, mais je pense vraiment que Noé a été séduit également. Tous les jours, ces personnes venaient vers Noé. Noé, hier, il a plu. Tu vois bien qu'aujourd'hui, il pleut plus. Noé, tu crois que ton bateau, il va tenir le coup? Noé, tu crois qu'il y aura vraiment ce jugement que tu nous dis? Noé a tenu ferme jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes vont nous séduire. Ça fait 2000 ans, que Jésus nous dit, je reviens bientôt. Ça fait 2000 ans qu'on annonce la repentance. Tu crois qu'il va revenir? Ce qui s'est passé avec Noé, un jour ça va se passer également. C'est la fin du chapitre 25. C'est le jugement. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que Jésus va revenir? Un frère a dit, pour ce qui concerne Jésus va revenir, il a dit, les paroles de Jésus sont plus certaines que l'existence même de tout l'univers. Les paroles de Jésus sont plus certaines que l'existence même de tout l'univers. Qu'on puisse retenir cela. Mais c'est à nous, mes frères et sœurs, de dire non comme les sages-femmes aux folles. C'est à nous à dire non à tous ceux qui veulent nous faire dévier de notre chemin. Dire non à tous ces faux prophètes. Dire non à tous ces faux messies. Jésus ne connaît pas les folles. Il connaît les vrais croyants. Alors, veillez donc, c'est être courageux, fort, parce qu'il y aura vraiment des moments très difficiles dans notre vie, même des dangers. Mais Jésus nous laisse cette promesse, c'est dans Jean. Jean 10, verset 14, il dit, « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Et puis, il dit, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Est-ce qu'on entend les pas de Jésus ? Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront pas. Et personne ne les ravira de ma main. C'est Jésus qui parle de ça. Personne ne sera retiré de la main de Jésus. Mais écoutons la suite. Mon Père qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main du Père. La main de Jésus, la main du Père. Personne ne peut retirer l'enfant de Dieu dans la main de Jésus et dans la main du Père. Nous allons rentrer dans ce festin parce que Jésus a payé. Il n'y aura plus jamais de faux messie, de faux prophètes. Il n'y aura plus personne qui vont nous persécuter. Il n'y aura plus de guerre, plus de tremblements de terre, plus de famine, plus de péché, plus de mort. Nous serons avec Jésus pour l'éternité. Quel festin! Soyez prêts, car Jésus revient bientôt. Alors pour ceux qui courent, je sais bien Olivier, Yairik et Anthony, et moi-même bien sûr, et beaucoup d'autres, aiment courir. Il paraît, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que ceux qui courent, les 200-300 mètres, si on accélère, c'est bon pour le corps. Mais c'est dur. J'ai essayé de le faire après 45 ou 50 minutes qu'on court et après, ces 300 mètres accélérés, c'est difficile. Mais il paraît que c'est bon pour le corps. Et vous savez quoi? Jésus accélère. C'est pour notre bien. Jésus accélère, c'est pour notre bien. Alors que cette année, puissions vraiment réfléchir à son retour. Amen.